C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Voici notre 30e émission d'un brin d'histoire. Elle est dédiée à Henri Rosès, qui est un pionnier de l'aviation. Enfant du Comminges, Henri Rosès est né le 1er octobre 1894 à Souesch, qui était un petit village de 600 habitants en 1900. Son père est né à Belbèze, de famille paysanne, et il choisit le métier de charpentier. Son père partait dès le printemps sur tous les chantiers dans la région parisienne. Le ménage eut 7 enfants et l'absence du père développera chez Henri un désir d'indépendance. C'était la forte tête de la famille et il apprit, lui, le métier de peintre en bâtiment. Les malheurs du siècle firent révéler sa bravoure et sa personnalité au contact de la mort. Henri Rosès mesure 1m67, il a les cheveux châtains clairs, un front vertical, un nez rectiligne et un visage long. Chevelure en arrière, et il partira donc à la guerre le 1er septembre 1914 dans le 143e régiment d'infanterie.
Et nous voyons s'envoler tout là-haut, vaillants et forts et prêts pour la victoire. Notre France, de nombreux héros, que nimbe l'auréole de la gloire.
Durant l'année 1915-1916 et le début de 1917, de nombreux faits d'armes vont le distinguer. Nommé sous-officier courageux jusqu'à la témérité, voici son rapport militaire. A communiqué son entrain aux mitrailleurs sous ses ordres. Il a contribué énergiquement à repousser une attaque ennemie à la grenade, à diriger un groupe de nettoyeurs avec beaucoup de décision, à pratiquer, sans outils, de longues brèches dans les défenses ennemies, a abattu un soldat ennemi et a obtenu la croix de guerre avec étoile de bronze. Le 18 novembre 1916, Henri Rosès quitte le 143e RI. Il venait d'être admis dans une école de pilotage à sa demande. Il échappait ainsi aux tranchées et jouissait ainsi d'une admiration et d'une vie privilégiée. Il obtint son brevet de pilote le 12 février 1917 et arrive à la SPA 99. Il pilotera dès lors le SPAD 13, qui n'est pas un avion facile. Et qui avait un moteur hispano-suiza de 220 puis 240 chevaux. Et il se confrontait au Fokker D7. Là, il fait preuve d'une bravoure et d'un mordant irrésistible. Au cours de récents combats, a exécuté de nombreuses missions à basse altitude et abattu seul un avion ennemi. Il reçoit dès lors la médaille militaire à la fin de la guerre 1918. Nous pensons que durant 2 ans, Rosès retournera dans sa famille à Souesch. Son souhait est de voler, car il a rencontré dans l'aviation un milieu fraternel issu de toutes les couches sociales. Mais on ne sait rien sur cette période.
À la France, donnons des airs, faisons tous un commun effort pour que sur la route nouvelle.
Henri Rosès obtiendra son brevet de pilote civil le 8 juin 1921, sous le numéro 00601. Il entre à la CGEA ce même mois et également dans l'histoire de l'aéropostale. Il faut admettre que les héros de la ligne se situent bien dans le champ de l'histoire. Leur prouesse s'inscrivant dans la modernité, car elles feront de Toulouse la capitale de l'aéronautique.
Pour notre gloire et nos succès, à la France, donnons des airs.
la première liaison postale régulière Toulouse-Casablanca eut lieu en 1919 sur un Sanson 2A2 par Georges Latécoère. La possibilité de vol des avions n'était alors que de 400 km. On avançait d'étape en étape, en suivant bien sûr la côte espagnole. Henri Rosès parcoura les segments de la ligne dans les deux sens des dizaines de fois. Et de nombreux incidents de vol, atterrissages forcés, accidents, sont bien sûr consignés sur ces registres. Avion mythique de ces pionniers, c'est surtout le fameux Breguet 14, sorti en 1916. Cet avion, fait pour le combat, est fabriqué en 5300 exemplaires et acheté par la société dès la fin de la guerre après avoir été désarmé. Certains voleront jusqu'en 1932 d'ailleurs. Le Breguet 14 est un avion biplan, solide, mais pas trop maniable, ni trop puissant, volant aux alentours de 180 km à l'heure, selon le temps et l'altitude. Le moteur Renault 12 FE possédait une puissance de 130 chevaux. Il était composé de deux cylindres, de deux lignes de six cylindres en V. Le réservoir contenait 440 litres d'essence et le régime moteur de 1500 tours minute. Cet avion pesait de 1500 à 1900 kg. Latécoère achètera 880 moteurs 12 FE afin d'assurer l'entretien et la réparation des Breguet 14. Quatre magnétos à haute tension et deux circuits commandaient l'allumage. Il y avait deux gros carburateurs Zénith également pour lancer le moteur. On tournait à la main sans contact. On injectait un peu d'essence avec une seringue métallique dans la chambre de combustion. Puis on tournait l'hélice avec le contact. On utilisera bientôt un lanceur à comprimé. Le segment africain de la ligne Casablanca-Agadir, Kapjugi, Villa Cisneros, Port-Saint-Étienne, Dakar, sera ouvert à partir de 1925, sans passagers à bord, vu le danger de par les conflits avec les tribus maures. Les vols se feront à deux avions qui se suivent, accompagnés toujours d'un interprète maure. Henri Rosès s'illustra par un fait d'armes hors du commun, obligé de se poser pour une panne, au bord de l'océan, fait prisonnier, il parvient à se dégager avec son coéquipier Éloi Ville. Ils arrivent à faire feu, tuer trois assaillants, courir au second avion et s'envoler sous la mitraille, abandonnant le courrier et l'avion en panne.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret.
Donc, en 1925, Dakar ne se trouvait plus qu'à 60 heures de Toulouse. Entre 1922 et 1925, Henri Rosès avait effectué 1509 heures de vol sur les Breguet 14 à la CSGEA et 3287 heures pour tout service aérien, militaire et civil. C'est ainsi qu'Henri Rosès reçoit le titre de chevalier de la Légion d'honneur le 16 mars 1927. Il sera considéré par le patron Didier Dora comme un élément de référence dans les discussions et décisions de son entreprise.
Un jour, s'il n'avait plus, tous deux, on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine.
Dès 1928, l'aéropostale utilisait des avions plus sûrs. Elle réunissait 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 200 marins, possédait 318 avions, 21 hydravions, 1350 moteurs, 6 avisos, 10 vedettes et 4 vapeurs dépanneurs. les biplans laissèrent peu à peu place aux monoplans. Mais cette progression fut source d'accidents. La fragilité venait des ailes. Elles se tordaient et se sectionnaient. Tous les accidents jusqu'en 1934 furent causés par un manque de flexion. Souvenons-nous de l'accident de Mermoz au-dessus de Capens, qui dut sa survie à son parachute en 1930. L'Ela T25, 26, 28 avaient des moteurs plus fiables que les Breguet 14 et plus puissants. Le Renault 12 JA développait 470 chevaux, mais les problèmes de structure donc aéronautique se posèrent également. L'apparition de longerons tubulaires en duralumin et la modification du fuselage permettront la fiabilité et la pénétration face aux turbulences. Le pilote est maintenant protégé par un pare-brise. Son poste se trouve sous l'aile et les passagers ont une cabine de 2,50 m sur 1,70 m de large et de haut. Les passagers transportés par Henri Rosès de 1922 à 1925 sont de 674. Parmi ces passagers, 14 femmes. Et dans la même période, il effectua 34 atterrissages forcés.
Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens poupoule, viens.
Jusqu'en 1930, la traversée de l'Atlantique se fera en bateau. L'aviso de la compagnie amenait le courrier jusqu'à Natal. Il était transporté ensuite en avion jusqu'à Rio de Janeiro, puis jusqu'à Buenos Aires. Henri Rosès volait avec Marcel Moret, son mécanicien natif de Montrégeau. Tous deux eurent de nombreux incidents sur les Ela T25. Mermoz et Kessel relateront ces faits. Depuis 1922, les pilotes s'adaptent au vol de nuit. Le courrier gagne ainsi beaucoup de temps. La radiotélégraphie sera un auxiliaire indispensable dès 1928. Henri Rosès entrera dans les lignes Farman vers 1929. Pour quelle raison a-t-il quitté la ligne de la CGEA? Il y eut une crise politique importante au sein de la compagnie aéropostale, bien plus qu'une raison personnelle qui ait modifié son départ. L'entreprise des frères Farman avait un esprit semblable à celui de l'aéropostale, mais son objectif était le transport des personnes. Les pilotes étaient en uniforme bleu, casquette plate, galon. Les Farman F-170 Jabiru et F-60 Goliath présentaient de nombreux avantages par rapport au Laté. Ils étaient basés tous au Bourget. Le poste de pilotage était surélevé et bien protégé. Il existait plusieurs versions, 1 à 4 moteurs. Il volait avec 8 passagers confortablement installés dans une cabine, éclairés et chauffés. Les appareils seront équipés d'instruments de guidage gyroscopique et de goniomètres au sol. Les lignes desserviront Paris-Londres, Paris-Berlin 1927, Paris-Amsterdam 1930. Les lignes Farman disparaîtront dès 1933 pour être intégrées à Air France. Et Henri Rosès totalisera en 1930 5074 heures de vol.
La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fuse.
À la fin des années 30, Rosès créa une école de pilotage à Toulouse. Il acheta deux avions en 1935 jusqu'en 1939 de marque Caudron. Il deviendra l'agent de la société à Toulouse et il participera ainsi à de nombreux rallyes. en Catalogne notamment. La guerre d'Espagne lui permettra de vendre, pour la société Caudron, deux avions à la République espagnole. Il fut arrêté en transportant des passagers considérés comme de dangereux espions suite à un atterrissage forcé chez les fascistes. Puis, libéré, il multipliera les expéditions de livraison d'appareils pour les républicains.
On dit que pourtant un costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur, oui mais... La guinguette a fermé ses volets.
En 1939, livrant un avion pour l'armée de l'air, près de Tours, il fut victime d'un accident au décollage sur un Potez 63. Ce grave accident mettra fin à son activité de pilote. Il se retirera à Suech, où, victime d'un cancer, mourra en septembre 1944, après avoir vu son pays libéré. Ce laboureur du ciel, comme l'a appelé Henri Soula dans son livre, méritait bien ce travail de mémoire sur les ondes de notre radio, Radio Galaxie.
Pleine, au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient, sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine? Chante les blés frémissants. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Connais-tu cette voix profonde? Revient au déclin du jour, chanté parmi la moisson blonde, des refrains palpitants d'amour. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.